Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui le trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y s'échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Les enfants du primaire, veuillez suivre le père Chauvin. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ne restons pas endormis comme les autres. Mais soyons vigilants et restons sobres, exhorte saint Paul dans la 2e lecture, répondant ainsi à l'inquiétude de certains disciples qui s'interrogent sur le moment, les événements, l'heure de la venue du Seigneur. Saint Paul leur fait comprendre que le plus important, c'est que nous soyons prêts. Aujourd'hui, il invite à porter notre regard sur l'aujourd'hui du chrétien. Et dans cette deuxième lecture, nous avons vu qu'il exhorte à sortir des ténèbres et à se comporter en enfant de lumière. Cette exhortation, frères et sœurs, nous met aujourd'hui devant nos responsabilités. Nous pencher aujourd'hui sur la vie chrétienne, c'est nous interroger sur ce que nous faisons de cette vie. Et il me semble que la parabole des talents nous aide à entrer dans cette dynamique, dans cette méditation. Ne dit-on pas que demain se prépare aujourd'hui. Cette parabole, frères et sœurs, essayons de voir les différents personnages afin d'en recueillir le message qui émane d'eux. Dans cette parabole, nous l'avons compris, le maître, bien sûr, c'est Jésus. Le voyage qu'il fait symbolise son absence sur la terre. C'est donc le temps de vie de chacun de nous sur cette terre avant sa rencontre décisive et définitive avec le Seigneur. Et à travers les serviteurs, on pourrait dire que ce sont les différentes options de comportement qui s'offrent aux disciples du Christ durant leur vie sur terre. Et les talents, c'est ce que nous avons reçu de Dieu, dons naturels, spirituels, notre argent, notre temps, notre énergie et toutes les occasions qui nous sont offertes dans la vie. La remise de ces biens rappelle la mission qui est confiée aux disciples en l'absence du Christ, nous qui sommes appelés à poursuivre sa mission. Nous pourrions nous interroger sur, je dirais, la différence des talents. Alors, je voudrais nous faire remarquer une chose que nous rapportent les théologiens et les historiens. Ils nous disent qu'un talent, à l'époque valait 6 000 deniers et que le salaire journalier équivalait à 1 denier. Donc, si vous faites le calcul très rapidement, pour celui qui a reçu un talent, il a reçu l'équivalent de 17 années de salaire. C'est 17 années de salaire. Alors, dans cette différente répartition, il est dit, le maître donne à chacun selon ses capacités. Donc, il ne faut pas, y voir une discrimination. Il ne faut pas comprendre que le maître a moins confiance en ses serviteurs, ce qui pourrait expliquer peut-être sa réaction. Mais non, selon ses capacités signifie que le maître fait porter à chacun la charge que ses épaules peuvent supporter. Nous sommes tous différents, nous sommes nés différemment. Cela ne fait pas que nous sommes inférieurs les uns aux autres, pas du tout. Mais avec ce que Dieu a donné à chacun de nous, il nous permet, bien sûr, je dirais, d'affronter cette vie et de tendre vers l'éternité. Mais l'énormité, je dirais, des sommes confiées nous fait comprendre, ou du moins nous fait aussi constater une chose. C'est que le maître a une grande confiance dans ses serviteurs. Se confier de telles sommes et puis partir en voyage, c'est prendre beaucoup de risques. Il est évident que ce sont les deux premiers serviteurs qui nous sont donnés en exemple aujourd'hui. Le maître a distribué les talents, mais nous l'avons vu, il n'y a eu aucun ordre précis, il n'a rien dit. On dit qu'il a confié et il est parti. Mais ces deux serviteurs prennent, du moins sont pleins d'initiatives. En dehors donc de tout ordre, ils décident de faire fructifier ce qui leur a été confié. Et c'est en cela justement qu'ils sont admirables. Ils sont tellement admirables que l'on constate que le résultat de leur initiative leur rapporte exactement la même somme qui leur a été confiée. Ils sont pleins de zèle, un zèle dynamique, et ils sont d'une grande fidélité. Cela témoigne aussi du fait qu'ils ont pris conscience de la grande responsabilité qui est la leur devant la mission qui leur a été confiée. Ils se sont sentis responsables. Oui, ils nous sont proposés un modèle parce que justement, ils sont pleins d'initiatives, parce qu'ils ont conscience de la responsabilité qui est la leur dans la mission que le Christ confie à chacun de nous. Et je dirais en cela, ils correspondent exactement à la première figure qui nous a été proposée dans la première lecture. Voilà, cette femme qui nous est proposée, le prototype, on pourrait dire, du bon disciple. Parce qu'on nous dit, elle est parfaite parce qu'elle vit selon le cœur de Dieu. Elle craint Dieu, autrement dit, elle aime Dieu, elle est fidèle. Et d'ailleurs, le texte nous le dit, cette femme, elle est travailleuse, fidèle et consacrée à son mari et à sa maison. Mais elle est aussi généreuse envers les pauvres et les malheureux. C'est un bon résumé de tout ce que le Seigneur recommande aux Juifs de vivre. Frères et sœurs, je dirais, en conduisant de la sorte, les deux serviteurs ont mérité amplement les compliments de leur maître. Ils ont fait son bonheur. Bon et fidèle serviteur, Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie du maître. Si nous sommes proposés en modèle, si nous sommes proposés comme modèle, c'est pour que nous aussi, dans la vie chrétienne qui est la nôtre, nous soyons, je dirais, pleins d'initiatives. Le Seigneur nous a confié des talents. Qu'en faisons-nous? En revanche, la figure du troisième serviteur, on pourrait dire, c'est avec son comportement, c'est ce qui est mis à l'index. Contrairement aux deux premiers, nous avons vu, il n'a eu aucune initiative pour faire fructifier ce qui lui avait été confié, le talent qui lui avait été confié. Et je dirais, non content de cela, il porte un jugement très sévère sur son maître. Oui, la motivation du fait qu'il n'ait pas fait fructifier son comportement, du moins le talent qui lui a été confié, repose sur le fait qu'il voit dans son maître quelqu'un de dur. Nous avons entendu ses propos qui sont très durs. Je savais que tu récoltes là où tu n'as pas moissonné et tu ramasses le grain où tu ne l'as pas répondu. Voilà. Ce serviteur, à qui une tâche a été confiée en même temps que chez les autres, est paralysé par la peur. Cette peur qui prend sa racine dans la projection, dans l'image qu'il s'est fait de son maître. Et pour cela, il choisit la solution de la facilité, ne voulant pas prendre le risque d'échouer et donc d'assumer les conséquences de cet échec, il décide de ne rien faire. C'est une grave erreur, nous révèle le texte. Frères et sœurs, nous le savons, en vie professionnelle, de chacun est attendu un résultat bien précis. En vie professionnelle, si vous commettez une faute, si elle est jugée grave, vous êtes licencié, n'est-ce pas? Dans la réponse du maître, nous comprenons cette mise au point qu'il fait et qui nous concerne, nous aussi, disciples. Il est du devoir, justement, du serviteur de produire du fruit. Ce serviteur qui ne se sent pas en devoir vis-à-vis de son maître est rappelé à l'ordre. Oui, il relève du droit du maître, je dirais, d'entrer en possession des fruits du travail qu'il confie. C'est un devoir pour le serviteur. Et l'on peut comprendre que le simple fait d'être disciple, cela nous concerne nous, le simple fait d'être disciple comporte en lui-même l'exigence de porter du fruit dans la mission. Le Seigneur nous dit, je vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Frères et sœurs, mais les exigences liées à notre foi font-elles de Jésus un tyran ou un esclavagiste? Non, parce que cette parabole nous révèle qui est Jésus. Ce maître qui fait la promotion de ses serviteurs, leur liberté étant sauve, il les aime et il les enrichit. Parce qu'à la fin de la parabole, si vous avez été attentif, il ne nous est pas dit que le maître reprend ce qu'il a donné. Pas du tout. Au contraire, puisque à l'un, on rajoute même. Voilà. Ce qui veut dire que, au final, ce sont les serviteurs qui sont les grands bénéficiaires du fruit de leur labeur. Oui, Jésus, ce maître, ne veut ni opprimer, ni soutirer, ni taxer, mais élever ceux qui sont dignes de confiance. Les efforts qui découlent des exigences liées à notre foi servent nos intérêts. Travailler pour le Seigneur, c'est travailler pour soi-même, frères et sœurs. Et on le voit bien, ce serviteur, il s'est complètement trompé sur toute la ligne. Et ce serviteur, s'il est mis à l'index, c'est parce qu'on dénonce, bien sûr, je dirais, et sa pensée et son comportement. Ce serviteur, ce sont d'abord ceux qui éternellement râlent contre Dieu, estimant qu'il leur en demande trop. Avec Dieu, ils sont dans un rapport de droit plutôt que dans une relation de confiance. Oubliant souvent leur état de créature, ils s'arrogent même le droit de juger Dieu et ses actions. Oui, pourquoi? De quel droit me demande-t-on cela? Je suis libre de faire ce que je veux. Ce sont ensuite toutes les personnes qui font des projections erronées sur Dieu, lui attribuant la responsabilité de tel ou tel mal. Oui, c'est toutes les fois où par la révolte nous répondons à la confiance du Seigneur par la méfiance et le soupçon. Oui, pourquoi Dieu m'a-t-il fait telle chose? Ce sont enfin toutes les personnes qui écoutent les paroles de Jésus et qui confessent qu'il est le Seigneur, mais n'agissent ni ne se comportent conformément à la mission qui leur a été confiée. Dans ce groupe, frères et sœurs, on trouve tous les baptisés qui se disent chrétiens non pratiquants. Tous ceux qui partent en courant dès qu'ils entendent le mot responsabilité, tout comme ses serviteurs fuyant ses responsabilités. Ce sont ceux qui se contentent d'être présents dans leur communauté sans engagement réel, sans aucune initiative ni générosité de leur personne, par souci de confort personnel. Oh, le Seigneur nous prévient.
Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il faut faire, il faut agir. Frères et sœurs, Jésus nous dit encore « Personne n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Comme chrétiens, frères et sœurs, le manque d'initiative et l'inactivité ne peuvent être une option de comportement acceptable. Et nous l'avons vu, si nous adoptons un tel comportement, nous en subissons les conséquences au dernier jour. La foi implique la générosité. Frères et sœurs, le péché, ce n'est pas seulement éviter le mal, mais c'est aussi ne pas faire le bien que l'on doit faire. Un théologien écrivait « Ne rien faire, c'est la louange qui convient à une pierre et non pas à un homme de foi. » Entre dans la joie de ton maître est la conséquence d'une foi active, d'un engagement éminemment actif qui mobilise le croyant et l'invite à des initiatives risquées, comme nous en donnent l'exemple les deux serviteurs. Oui, il s'agit de travailler de sorte à augmenter les fruits qui nous ont été confiés. Oui, quels sont ces talents qui m'ont été confiés et qu'est-ce que j'en fais? Oui, cette vie qui nous a été donnée, ne la gaspillons-nous pas? Que faisons-nous d'utile et de significatif du temps qui nous est accordé sur cette terre? Où est la manifestation concrète de notre foi, frères et sœurs? De quoi pouvons-nous, en tant que disciples, nous targuer d'être bons et fidèles serviteurs? Oui, comme disciples, le Seigneur peut-il nous faire confiance aujourd'hui pour agir en toute responsabilité dans la mission qu'il nous a confiée? Frères et sœurs, il nous faut nous interroger aujourd'hui sur l'orientation à donner à notre vie chrétienne. C'est un champ. Cette vie chrétienne qui a besoin qu'on y investisse du temps, des ressources, en acceptant fatigues et peines et en sachant surtout que les fruits spirituels sont proportionnels aux efforts consentis. À semer trop peu, on récolte trop peu, dit le proverbe. La paresse spirituelle est un vrai poison pour la vie chrétienne. Il fallait le placer à la banque et à mon retour que je l'aurais retrouvé avec les intérêts, est à accueillir, frères et sœurs, comme une exhortation et un encouragement pour toutes les personnes qui pensent ne pas être en mesure d'apporter beaucoup. C'est un encouragement à faire tout de même tout ce qui est en leur pouvoir. Oui, parce que, frères et sœurs, dans le champ de Dieu, il nous faut apprendre à travailler avec des moyens modestes. Si nous avons été attentifs, vous le voyez, que ce soit pour le premier serviteur qui a rapporté 5 autres talents, que ce soit pour le deuxième, ils ont tous reçu les mêmes félicitations. Ce qui signifie, frères et sœurs, que les récompenses du Seigneur correspondent non pas à la quantité de travail, mais à la fidélité dans la tâche, cette fidélité qu'il exige de nous dans la mission qu'il nous confie, selon notre capacité. Ce n'est pas la quantité de la tâche qui importe. En nous inspirant de ce maître Jésus qui valorise ses collaborateurs, les petits, les pauvres, le pape François nous invite aujourd'hui, en cette journée mondiale des pauvres, à ne nous détourner d'aucun pauvre et surtout à travailler à réhabiliter leur dignité. Oui, quelle initiative chrétienne allons-nous mettre en place individuellement et communautairement pour justement faire fructifier nos talents au service des pauvres? Que la charité de Saint Vincent de Paul et de Mère Teresa, le zèle d'Henri Planchat, chasseur des âmes, stimule notre esprit d'initiative et notre générosité dans le service de Dieu et dans le service fraternel. Que Dieu nous écoute et nous exauce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.